Chapitre 4. Le lendemain, Baladier m'arriva la mine tellement épanouie que je m'écriai « Quelle bonne nouvelle avez-vous ? » « Ma mère vient passer quelques jours à Paris. » Il me parlait quelquefois de Madame Baladier avec une sorte d'adoration, mais il s'arrêtait aussitôt parce qu'il craignait de provoquer un retour pénible sur ma solitude. Du moins, je lui attribuais cette pensée et, dans la suite, j'appris que je ne me trompais pas. Ce matin-là, il abandonna sa réserve pour entrer dans maints détails. « Ma mère vous plaira, si vous saviez tout ce que je lui dois. Après la mort de mon père, elle a été plusieurs années dans une grande gêne. Sans perdre la tête, elle a loué sa propriété pour habiter une petite ville où la vie était moins chère. À force de se priver, d'économiser, elle m'a fait continuer mes études. Heureusement, j'étais travailleur et, très jeune, je comprenais mes responsabilités. Mais c'est à ma mère, à son courage, que je dois d'être ce que je suis. » Il demeura pensif quelques instants, et moi également, je n'en revenais pas. « Et plus tard ? » dis-je timidement. « Plus tard, un héritage a tout modifié, mais déjà je pouvais me suffire à moi-même et entourer ma chère mère d'un certain bien-être. Les rôles se renversaient, Dieu merci. » « Elle n'a pas eu la pensée d'habiter à Paris avec vous ? » « Si, mais la grande ville ne convient pas à sa santé. Elle est rentrée avec joie dans sa propriété, dont elle s'occupe activement. Jeudi, elle déjeunera chez M. Dubarral, et je serai heureux de vous présenter l'une à l'autre. Vous permettez, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. » »«
Comment aurais-je fait pour ne pas permettre ? » Mais quand on s'intimide, et Baladier paraissait subitement intimidé, on prononce des mots nullement appropriés aux circonstances. Je demeurai toute troublée par cette conversation qui répondait si peu à mes aperçus secrets. « Il y a donc un dédoublement chez ces hommes singuliers, » me disais-je en rêvant. Madame Baladier, que je me figurais un peu vulgaire d'aspect et mal habillée, était une femme de 50 ans, à l'air jeune, grande, mince, un peu froide, mais si distinguée dans sa mise, ses gestes et sa manière de parler qu'elle me plut infiniment. Elle me parla de mon père, dont j'apercevais ainsi l'ombre protectrice s'étendre encore sur mon isolement. Je l'ai vu souvent pendant que mon mari posait pour son portrait. M. Vidal-Armand était aussi charmant homme du monde que peintre de talent. « Son image se perd dans des souvenirs bien imprécis, » répondis-je, « mais d'après ses portraits, je l'aurais jugé comme vous, madame. » Plus d'une fois, je l'ai entendu louer de la même façon par ceux qui l'ont connu. Je m'émotionnais et Madame Baladier, avec tact, donna une autre direction à l'entretien qui continua sur un ton aimable. Elle m'observait sérieusement, sans en avoir l'air, et mes pensées prenaient déjà leur vol. Je ne la vis qu'une fois, elle passait comme une comète. Elle n'aimait de Paris ni le tintamarre, ni la quasi-certitude d'être écrasée. Son fils la reconduisit en Touraine et, au retour, il entra dans mon cabinet sous le prétexte fallacieux de me remettre des papiers que je savais être déposés à leur place habituelle où j'allais les chercher. « Vous avez tant plu à ma mère, mademoiselle Rita. » L'impression est réciproque. Je l'ai trouvée complètement à mon gré. Il était pressé, il n'ajouta pas un mot, me serra vivement la main et disparut avec l'air d'un béat qui monte au ciel. Ces petits incidents, ces attitudes me livraient à des conjectures flatteuses pour mon amour-propre, elles me livraient bien plus encore aux perplexités qui me hantaient. Ce Baladier, fils affectueux, compagnon délicat dans ses rapports avec moi, me déroutait, car l'idée ne s'imposait pas à mon esprit que M. Baladier, ayant un poste important dans la banque, pouvait ignorer des dessous incompatibles avec ses qualités. Au début de mon travail, mes occupations ne m'intéressaient que par leur côté technique qui nécessitait un perfectionnement dont j'étais loin. Mais bientôt, plus sûr de mon mécanisme, j'essayais de comprendre le sens de mes rédactions et j'eus de grands étonnements. La langue barbare des financiers m'était complètement étrangère. Cependant, peu à peu, familiarisé avec le sens de certaines expressions, avec des phrases à double sens, je pensais souvent à l'araignée tapie au fond de sa toile. Après quoi, je riais de moi-même. Que savais-je en réalité de ces questions ardues et antipathiques à ma nature? Et puis, on pouvait dire que M. Untel était un benêt, facile à berner, sans songer pour cela à le plumer comme un oison. Une opinion défavorable sur l'intelligence d'un homme n'entraîne pas forcément à des mensonges ou à des malversations. Pourtant, je méditais souvent, mais, ennuyé des allusions à ma sottise, je dis le mot tout cru, bien qu'on l'enveloppât ordinairement d'aimables euphémismes, je m'affermissais dans la résolution de garder un farouche silence. Cependant, j'aurais bien voulu savoir, surtout depuis que M. Saint-Audon se préparait à devenir la mouche guettée par l'araignée. Et pourquoi ne pas commencer une enquête discrète? Idée enthousiasmante que j'exécutais sans tarder par un froid de loup. Une couche de neige attristait Paris, le contraire, sous cet aspect, du Paris vanté par ceux qui s'amusent. Moi, je ne m'amusais pas, l'ennui, le morne ennui, pesait de tout son poids sur mon esprit, et je pris le train pour surprendre Noël, qui, très frileuse, devait être chez elle. Si j'avais la bonne fortune de rencontrer M. Féval, je mènerais mon enquête au grand galop. Noël, qui s'ennuyait, me reçut comme marée en carême. Elle me conduisit dans le cabinet de travail de son père, où, devant un grand feu de bois, nous nous rôtîmes avec béatitude. Du froid et de l'ennui, il n'était plus question. Après avoir ri aux larmes des mille riens que nous disions, j'amenai tout doucement la conversation sur M. Saint-Audon. « Avez-vous beaucoup aimé son dernier article, Noël ?»« Oui, il est très étudié. » « Presque trop. Le talent d'un peintre ne peut-il être apprécié sans tant d'explications ?»« Mais le talent du critique, c'est de pénétrer celui des autres, et l'esprit de M. Saint-Audon est d'une rare pénétration. » Je trouvais ce critique rare en tout, mais je connaissais maintenant la valeur d'une excessive réserve, et mon silence permit à Noël de vanter M. Saint-Audon. « Du premier coup, votre jugement sur lui a été juste, petite Rita. » Ma béatitude augmentait. Peut-être, répondis-je, parce que, ne l'ayant jamais vu, je le jugeais sans influences aveuglantes. Ce qui veut dire que j'étais ou suis aveugle parce que je le connais trop, dit-elle en riant. L'habitude ne permet plus de voir quelquefois, je crois. Quelquefois, en effet, René prépare une fugue de 3 semaines en Italie. En Italie, l'heureux personnage. Nous l'avons vu vendredi. Avant de partir, il doit consulter M. Dubarral sur le placement d'une grosse somme. Il parle très simplement de ses affaires qu'il confiera à votre parent. « M. Féval est sorti ? » demandai-je vivement. « J'entends l'auto. Il rentre après avoir conduit maman chez des amis à 5 kilomètres d'ici. » L'accueil de M. Féval était toujours aimable, il me retint avec affabilité lorsque, par discrétion, je parlais de me retirer. « Non, non, demeurez, je suis enchanté de vous voir, » dit-il en étendant les mains devant la jolie flamme du foyer. « Et puis, il fait bon ici, je n'aime que ces feux de bois. Et vous, mademoiselle Rita ?» Il me rappelle la chaumière, je les aimerais à cause de cela, même si je ne les aimais pas pour eux-mêmes. « Est-elle louée, votre chaumière ?»« Oh non, je la garde pour y passer mes vacances. Je serai presque riche quand je partirai. »« Presque riche » répéta-t-il avec une nuance de compassion. « Alors, vos fonctions de copiste marchent bien ?»« Monsieur Dubarral est satisfait. »« Très satisfait, je le sais. Aussi me suis-je permis de vous questionner. Il parle de vous faire monter en grade sous forme d'émoluments plus élevés. » « Mes émoluments actuels suffisent bien. Je suis défrayée de tout. »« Alors, vous êtes entièrement contente ?»« Je saisis la balle. »« Non, je ne suis pas entièrement contente parce que je suis très ennuyée de ne pas comprendre une foule de choses dont ces financiers, ici ma grimace habituelle, parlent entre eux. » Ces choses ne sont pas votre affaire. Les jeunes filles, heureusement, vivent dans un autre monde d'idées. » Elles le devraient du moins, mais quand elles sont obligées de côtoyer tant de chiffres, c'est fort ennuyeux de marcher dans l'obscurité sans pouvoir allumer une lanterne. M. Féval répondit en riant. « Voyons si je puis être cette lanterne allumée. Questionnez, mademoiselle Rita, sur quoi voulez-vous être éclairée ? Est-il vrai et juste, comme je l'entends dire, que les banquiers aient le droit de spéculer avec l'argent qui leur est confié ? Je n'entendais rien préciser, gros mensonge diplomatique pour parvenir à mes fins. Que le ciel me le pardonne. Distinguons, je vous prie. Ils ont le droit de faire fructifier l'argent dont ils paient régulièrement les intérêts et dont répond leur fortune personnelle. Mais s'ils spéculent parce qu'ils sont embarrassés dans leur fortune et qu'ils espèrent ainsi se remettre d'aplomb. S'ils perdent, ils ont ruiné leurs clients. Spéculer dans ces conditions avec l'argent d'autrui est un abus de confiance, difficile à prouver du reste, car on peut toujours invoquer la bonne foi. Mais s'ils se rattrapent, s'ils se remettent en équilibre, alors tant mieux pour le client qui n'a pas connu le danger couru par ses capitaux. Mais, à mon avis, un acte équivoque ne change pas de nature par ses résultats. Naturellement, s'écria Noël, vous si droite, Rita, comment ne le comprenez-vous pas vous-même ? Je suis une innocente, vous savez, répondis-je avec précaution. J'entends émettre, dans une langue barbare, des opinions étranges. Pas par M. Dubarin, je suppose, me dit M. Féval. Il reçoit beaucoup d'hommes, je les écoute. Ma tête abrite un ramassis d'idées hétérogènes. C'est fort pénible, je vous assure. Continuai-je avec un sombre désespoir qui les fit rire. Demandez à M. Dubarral ce que lui-même pense des hommes d'affaires qui spéculent de façon aventureuse. Vous verrez son indignation. Ce n'est pas lui qui, tout en croyant réussir, ferait courir un tel risque à ses clients. À plus forte raison s'il savait que l'affaire est nettement mauvaise. Il y a, du reste, en ces questions de finances, des tempéraments que je connais mal, qui expliquent, excusent ou facilitent certains faits. M. Dubarral vous instruirait mieux que personne. Je regardai M. Féval d'un air profondément rêveur, en tortillant les pans de ma longue ceinture. Il est difficile, répondis-je, de s'adresser à un banquier pour s'enquérir de l'improbité présumée de certains banquiers. Oh, avec Dubarral, cela n'a aucun inconvénient. Expliquez-moi encore s'il est vrai que faire signer un cautionnement, j'ai appris ce que c'était, peut être indélicat. Plus qu'indélicat si on empoche l'argent avec l'arrière-pensée que celui qui le prête ne le reverra pas. Bien plus, on peut compromettre l'honneur du signataire en l'entraînant à son insu dans une affaire malhonnête. Oh, horreur ! M'écriai-je. Oui, dit M. Féval, en riant de mon épouvante. Un certain monde des affaires n'est pas beau. Heureusement, vous êtes très loin de ce monde-là. J'inclinai lentement la tête et ce lent mouvement fut pris par M. Féval pour un acquiescement, mais Noël, plus fine, me dit d'un ton en vérité très mécontent. Vraiment, Rita, quelqu'un qui entendrait vos questions sans connaître M. Dubarral croirait que vous le soupçonnez. Que dites-vous ? Soupçonnez M. Dubarral ? Fis-je d'un air assez hébété pour assurer instantanément mon ami. Quelle idée, Noël ! Lui dit son père. Ton ami en est stupéfaite. On ne soupçonne pas un homme comme lui. Mademoiselle Vidal-Armand, sans tout comprendre, est bien placée pour avoir confiance. Naturellement, dis-je en respirant à plein poumon, je suis bien placée. En cet instant, on entendit un moteur, une sonnette, et M. Saint-Audon fut introduit dans le cabinet. Toujours le même, courtois, aimable, intéressant. Nous le complimentâmes sur son article, et en écoutant ses réponses spirituelles, je songeais à Mme d'Aulnoy, à ses princes toujours charmants, qui répondent toujours avec esprit. Je me levai enfin pour partir, ne voulant pas avoir l'air de rester pour lui. Partir quand il était là, j'en aurais bien pleuré. Je suis doublement heureux de vous rencontrer, mademoiselle, me dit-il. Vous allez me renseigner sur les jours et les heures de réception de M. Dubarral. Mardi et jeudi matin, de 9 heures à midi, répondis-je d'un ton si sec que ma voix me produisit l'effet du marteau qui casse les pierres sur la route. Mardi et jeudi, bien. Mardi, je suis pris. Samedi, je pars. J'irai donc le voir jeudi matin. Puis-je vous demander de lui annoncer ma visite ? Oui, fit le marteau. Si j'avais pu mettre en miettes une potiche, un livre, une carafe, n'importe quoi, M. Saint-Audon lui-même. Moi, l'aider à l'introduire dans une caverne, lui que je voulais heureux sans souci d'argent, nourri seulement de sucs intellectuels, évoluant dans les régions inaccessibles aux vulgaires, à la façon d'un aigle, ni plus ni moins. Noël me reconduisit à la porte du vestibule et m'embrassa. « Vous avez l'air en colère, Rita. Vos yeux gris en sont devenus presque noirs. Cependant, M. Saint-Audon n'a rien dit pour vous mécontenter. Il s'étonnait visiblement de votre ton. Je n'aime pas qu'un artiste soit attiré par le veau d'or. Oh, le veau d'or! Quelle comparaison surannée! Il faut de bons conseils pour placer son argent. » Et le perdre aussi, mais je refrénai ma réponse, courus à la gare et rentrai chez moi en ébullition. Il était tard. M. Dubarral m'avait demandé plusieurs fois parce que, s'absentant le matin suivant, il désirait me donner différentes instructions. Je m'efforçai de l'écouter attentivement, mais mon imagination galopait après l'argent de M. Saint-Audon qui roulait dans un gouffre. Pendant le dîner, je me décidai à remplir ma mission. « J'ai rencontré M. Saint-Audon aujourd'hui chez Noël. Il viendra vous voir jeudi matin. »« Très bien. Féval m'a parlé d'un important placement de fonds. Je le conseillerai volontiers. C'est un homme aimable, mais dans votre genre, Rita, nullement positif. »« Grâce au ciel. »« Comment grâce au ciel? Sans esprit positif, que deviendrait ce bas monde ?» Je me renfermai dans mes pensées tout en mangeant avec un appétit merveilleux une délicieuse timbale. M. Dubarral me regarda d'un air indulgent et me dit avec bonhomie « Je crois, Rita, que vous trouvez ma cuisine excellente. »« Succulente, et j'entrevois le rapprochement, » dis-je en éclatant de rire. « Oui, le positif, le terre-à-terre ont du bon quand ils sont si bien représentés. » Et je repris une seconde timbale. « Laurette, dis-je innocemment, ne me paraît pas avoir des goûts terre-à-terre. »« Terre-à-terre, ma fille ?» Je crus entendre le grondement de la foudre. « Terre-à-terre, elle ?» reprit-il, suffoqué littéralement. « Ne vous fâchez pas, puisque je pense comme vous. Laurette a un petit air tout à fait idéal. Elle est trois fois délicieuse, tout simplement. » Il partit au grand trot sur les qualités incomparables de sa fille, dont jamais, depuis le commencement du monde, semblable exemple ne s'était vu. Puis, avec chagrin, il se marmotta à lui-même. Dans peu d'années, le mariage, mais avec sa dot magnifique, elle choisira, Dieu merci. Il ne dit plus un mot, moi non plus, mais je n'en pensais pas moins. Ma soirée se passa à réfléchir au contraste que présentait le caractère de M. Dubarral. Mon embarras eût été grand si, alors, j'avais dû le définir. Cependant, je compris assez vite, quand les fêtes me frappèrent, que M. Dubarral était enchanté de mon inexpérience, de ma tendance à douter du mal, à croire presque toujours au bien, parce qu'il supposait que, les yeux ainsi bandés, je marcherais à sa guise, que je verrais du feu quand il eût fallu voir une vague. Il pensait que ma candeur faciliterait nos rapports, que, sûr de mon incompréhension, il pouvait sans inconvénient donner des ordres ou faire des confidences à mots couverts. Au commencement, quand je le voyais généreux, ma sympathie s'éveillait, mais par un mot prononcé comme un aphorisme, il me déconcertait. « Il faut, disait-il froidement, se conformer aux usages reçus, donnant quand c'est convenable. La correction, dans notre état social, est une nécessité, en même temps une force. » Pourtant, ce n'était point un hypocrite, mais un esprit systématique et indifférent aux idées élevées, son amour pour sa fille mis à part, car cet amour paternel lui ouvrait des portes que, sans Laurette, M. Dubarral n'eût même pas entrebâillées. Il aimait les opinions sages et modérées, exception faite pour le gain, parce qu'elles représentaient l'ordre et s'alliaient avec les convenances. Il n'aurait jamais fait le mal pour le mal. Il n'était ni haineux, ni méchant, mais sceptique ou amoral, car lorsque son intérêt primait l'honnêteté, il mettait sous ses pieds les principes d'honneur, et j'ajouterai de simple probité, si ce mot avait la même signification dans la cervelle d'une jeune fille et dans celle d'un financier comme lui, j'entends. Je surpris un jour une conversation où un homme d'affaires, son ami et complice, le plaisantait sur son habileté à prouver sa bonne foi sans que ses victimes eussent la pensée qu'elles lui devaient leur amère disgrâce. Je ne connaissais pas et je n'aurais pas compris, pas plus que je ne les comprends maintenant, ces manœuvres trop adroites. Toutefois, j'avais su rapidement qu'il spéculait avec des fonds dont il payait régulièrement les intérêts, mais qu'il n'aurait pu remplacer en cas de perte sérieuse. Si une spéculation l'avait déçu, il cherchait à redresser la situation en compromettant non pas toute une fortune, car bien que hardi, il était fort prudent, mais en disposant de bonnes parcelles. Il grignotait de côté et d'autre comme un bon rat malfaisant et bouchait ensuite les trous lorsque la spéculation réussissait. En général, elle réussissait. Le dieu des indélicats était pour lui et il le fut jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand j'arrivais à Paris, il passait par des moments difficiles, d'autant que, hypnotisé par l'idée de doter superbement sa fille, il se fixait un chiffre de gain et, à tout prix, voulait l'atteindre. Je connaissais bien peu Laurette, assez pour m'imaginer qu'elle eût blâmé cette fièvre du gain et se fût contentée d'une fortune plus restreinte. Du moins, habituée à être comblée, elle professait des idées désintéressées tout à fait amusantes. Je ne sais si, dans la pratique, elles eussent résisté, mais je la croyais sur parole. Dans ce temps-là, je croyais tout le monde. Longtemps après, je m'aperçus que, en théorie, il est aisé d'être pauvre sans rager. Ma cellule, je l'ai dit, communiquait avec le cabinet de M. du Barral. Si on n'élevait pas la voix, je n'entendais rien et me gardais d'écouter, mais il arrivait que, le diapason d'une conversation se modifiant, je surprenais des propos si je cessais de travailler. J'en prévins M. du Barral. « Bah, que m'importe, et que pouvez-vous comprendre? Rien de mystérieux chez moi, du reste. Cependant, vous pouvez parler de choses secrètes. Vos affaires ne regardent que vous. Des phrases tronquées ne vous apprendront rien, petite Rita. Et puis, vous n'aimez pas assez nos questions pour vous y intéresser. Je vous permets d'écouter tout ce que vous voudrez. » Ce dédain pour la perspicacité de mon entendement me surprenait. Dans cette maison, je passais d'étonnements en étonnements. Je n'aimais pas les questions financières, mais je sympathisais extraordinairement avec la mouche qu'on se préparait à entortiller. Je savais que M. du Barral cherchait des fonds pour une affaire qui pouvait réussir ou entraîner fort loin. Lui, par une combinaison dont j'entrevoyais assez vaguement les rouages, était certain d'en sortir indemne, mais la malheureuse mouche pouvait être ruinée en partie, compromise moralement aux yeux de ses amis et même du public, en perdant une de ses ailes si elle cautionnait une affaire équivoque. M. du Barral, afin de prouver sa bonne foi en cas d'échec complet, risquait dans l'affaire un capital insignifiant. C'était aussi un moyen d'attirer les insectes, son nom, sa réputation, son expérience étant la garantie la plus sérieuse pour les actionnaires. Je crus comprendre que, simplement pour cela, sans faire partie du conseil d'administration, il recevait un appoint important. Je débrouillai plus tard, et peu à peu, ce que j'écris actuellement. Je dois ajouter que M. du Barral et son ami espéraient naturellement que l'affaire, bien commanditée, soutenue par des noms honorables, n'était pas désespérée. Mais ceux qui s'y engageaient couraient des risques dont les deux amis se seraient gardés de parler. « J'ai sous la main un intellectuel qui marchera », avait dit M. du Barral au lanceur de l'entreprise. « C'est un artiste qui comprend peu de choses aux affaires. Il ne verra rien des risques. J'espère même qu'il donnera facilement sa signature. Ce serait un succès pour votre conseil. » Il n'avait pas prononcé le nom de M. Saint-Audon, mais évidemment, c'était lui. Sans avoir l'air d'y toucher, je parlais à M. Balladier de cette affaire de mine. « Auriez-vous de l'argent à placer ?» me dit-il étonné. « Peut-être. N'allez jamais par là, rien n'est moins sûr. Si vous achetez des valeurs, qu'elles soient de tout repos. Existent-elles seulement, ces mines qu'on parle d'exploiter ? La composition du conseil d'administration me déplaît. Où avez-vous entendu parler de cette affaire ? On en a parlé devant moi, vaguement.
Ici ?
Quelques mots surpris dans le cabinet de M. Dubarral. Il en parlait pour mettre les gens en garde, car nous avons discuté ensemble de cette affaire et sommes d'accord pour attendre même renseignement avant de la soutenir. Cependant, il m'a paru que sa sympathie penchait vers elle.
Alors lui, Baladier, ne connaissait pas sur ce point les agissements de M. Dubarral. Je n'y comprenais plus rien.
Pendant ma réponse, il m'observait d'un air inquiet. À quel moment vis-je un changement sérieux dans ses manières ? Je ne me le rappelle pas. C'était un mélange de perplexité, d'ennui, de tristesse. Mon cœur saignait, car j'avais en tête que j'étais un peu la cause de sa préoccupation. Un dimanche, nous étions ensemble chez les Féval. Il paraissait tout battu de l'oiseau, et, ne résistant plus, je lui dis avec intérêt « Vous êtes bien préoccupé ?»«
Vous l'avez remarqué, » répondit-il, avec une bonne figure subitement épanouie.
Noël me lança un regard malicieux.
« Oui, dit-elle, une préoccupation qui va parfois jusqu'à la tristesse. Je l'ai remarqué aussi depuis quelque temps déjà.
« Mon caractère n'est pas triste, » dit-il en s'évadant.
« Au contraire, reprit Noël, vous êtes facilement rieur. Qu'avez-vous, voyons, des déceptions de sentiments ?»«
Elles viendront peut-être, mais il y en a d'autres, fort amères souvent. » Il répondit si sérieusement que nous cessâmes de badiner. Quelques moments après, Madame Féval arriva en auto avec M. Saint-Audon, qu'elle avait cueilli à la gare. Il aimait Baladier, en parlait toujours avec sympathie et lui tendit une main cordiale, mais Baladier, en le voyant entrer, avait pris la mine inquiétante d'un conspirateur. Il ne lui manquait que le poignard, le sombrero et la cape jusqu'aux yeux. Cet air me donnant envie de rire, je m'abandonnai à mon humeur folâtre, à la grande satisfaction de Madame Féval, qui, très gaie elle-même, me reprochait quelquefois mon air grave.
« Ne dites jamais que vous avez faim à ceux qui ont du pain, » dit un proverbe arabe. Ce proverbe a oublié d'être sot. Mon exemple fut contagieux. La conversation devint amusante grâce à M. Saint-Audon, toujours dans la note, ce que, voyant, Baladier secoua sa tristesse pour se mettre à l'unisson. Mais il riait avec un effort qui transforma bientôt mon humeur joyeuse en commisération. Je déteste voir souffrir d'un malaise occulte et comique. On ne sait jamais à quelle profondeur descend la souffrance.
Je suis enchanté, me dit M. Saint-Audon en me serrant la main quand je me disposais à partir, que vos occupations sérieuses n'altèrent jamais votre gaieté, Mademoiselle Rita.
Lui aussi prenait l'habitude de m'appeler Mademoiselle Rita, et bien que la familiarité soit à mes yeux chose haïssable, je ne m'en offusquais pas. Je le voyais souvent, car j'avais glissé comme lui sur la pente agréable de venir chaque dimanche aux Iris. La sympathie était réciproque. De plus, Madame Féval, et surtout Noël, mettaient l'intimité entre nous.
« Des occupations sérieuses ne sont pas un malheur, » répondis-je, « et la vie est si belle. » Là-dessus, je fis mes révérences. La gare était lugubre, mon compartiment râpé, laid, malpropre. Un petit vent coulis me glaçait. Pourquoi la vie me paraissait-elle si belle? Vraiment, M. Saint-Audon avait été charmant. Tous ses souvenirs, ses détails, ses impressions contradictoires, ce bonheur, ses tristesses fugaces sont loin, mais je les aime.